Je me permets de vous soulever avec vous ceci, une question qui me paraît fondamentale. Lorsque les troubles du comportement alimentaire sont avérés être le résultat d'un traumatisme, nous sommes en droit de nous interroger sur la nécessité et le bien fondé d'un protocole de soins qui est perçu et vécu comme un traumatisme supplémentaire, coercitif, humiliant et punitif.
En 2011, alors atteinte d'anorexie mentale, Lali fait appel à une assistance médicale. Cependant, le contrat de prise en charge qu'elle signe avec un institut psychiatrique ne correspond pas à ce qu'elle attendait. Au lieu du soutien et de l'attention auxquels elle s'estimait avoir droit, elle dut subir l'isolement forcé, la censure de son courrier, les privations de lecture et les humiliations d'une surveillance exacerbée. Elle donne ici son témoignage au micro de Louis Perregaux.
Bonjour, je suis Lali, Nathalie Forestier dans l'état civil, et je voudrais relater ici mon expérience personnelle d'isolement en établissement psychiatrique. Dans le cadre du festival Concertina, lorsque nous parlons d'enfermement, nous pensons évidemment à la prison. Il y a d'autres lieux de privation de liberté, et notamment des établissements de soins où on peut s'interroger sur les pratiques de soins. Ce fut mon cas lorsque j'ai été hospitalisée à la clinique Saint-Vincent-de-Paul à Lyon, lors de la période de juin à décembre 2011. J'ai été admise en juin 2011, j'étais âgée de 41 ans. Et à cette époque, je travaillais comme collaboratrice politique au cabinet du maire de Saint-Étienne, c'est-à-dire que je rédigeais les discours des élus, organisais les conférences de presse. Si je mentionne cela, c'est pour situer la période de ma vie à laquelle j'ai vécu cette expérience que je qualifierais de privation de liberté sur un mode à la limite du modèle carcéral. Très factuellement, je me suis retrouvée dans une chambre de 9 mètres carrés pendant 7 semaines en juin et juillet 2011. Si vous vous souvenez, c'était la période une période de canicule. La chambre était réduite à un mobilier spartiate, une chaise, une table et un lit. Et j'ajoute des barreaux aux fenêtres. Pas de visite, pas de courrier, pas d'appel téléphonique, aucun contact avec l'extérieur. Très peu d'objets personnels, à l'exception d'une radio, pas de télé, et double peine, en ce qui me concerne, aucun livre. Lorsque je me suis présentée à l'admission de cet établissement psychiatrique, j'étais arrivée avec deux valises, une valise avec mes affaires personnelles, mes vêtements, et une seconde valise dans laquelle j'avais déposé des livres. Cette valise m'a été retirée dès mon entrée en chambre d'isolement. Le repas en chambre était assisté par un membre de l'équipe, le plus souvent une infirmière, avec obligation de terminer mon plateau repas. Je me souviens de ce premier repas, un steak frites et une danette au chocolat. Bref, de quoi écœurer une personne anorexique, puisque j'étais hospitalisée pour soigner une anorexie mentale. Deux douches par semaine, qui étaient chronométrées, 10 minutes la douche, pas de sanitaire dans la chambre, lavabo bloqué, aucune arrivée d'eau. J'avais droit à 2 litres d'eau par jour. Et pour aller aux toilettes, je devais solliciter une infirmière qui m'accompagnait, non sans me surveiller, puisque je devais laisser la porte des cabinets ouverte. Bref, aucune intimité. Ce que j'ai vécu sur le mode de l'humiliation, comprenant bien la nécessité qu'avait le personnel médical de s'assurer que je ne me faisais pas vomir lorsque j'allais aux toilettes, il me semble qu'il était possible de s'en assurer autrement, tout simplement en permettant à ce que je puisse m'isoler dans les toilettes, puis que ce soit l'infirmière qui vienne tirer la chasse après mon passage. La visite du psychiatre, une seule fois par semaine, pas de sortie extérieure, même accompagnée dans le parc. Voici exposé en quelques phrases le contrat que j'avais signé lors de mon admission à la clinique. Admission qui m'a été proposée par mon psychiatre, en qui j'avais toute confiance. À l'issue de 3 semaines précisément. Si la patiente reprenait du poids, elle était transférée dans un service où elle avait plus de marge de liberté. Sortie dans le parc, courrier et un appel téléphonique par semaine. Il a encore stipulé aujourd'hui que si la patiente ne respecte pas ce contrat, vous l'auriez compris, hein, ce contrat visait à une prise de poids. Or, l'équipe soignante prend ses responsabilités. C'est ce qui s'est produit me concernant. J'avais respecté tous les termes du contrat, mais hélas, à la pesée, malgré cet isolement dans 9 mètres carrés avec l'impossibilité de bouger, j'avais perdu 500 grammes. Et me voici reparti pour 4 semaines d'isolement supplémentaire, sans plus de livres ni contact avec l'extérieur. À l'exception d'une lettre que j'ai pu adresser à mes parents. Une lettre qui a été lue avant d'être envoyée, puisqu'elle m'a été retournée en chambre pour que je la réécrive. J'ai vécu cela comme une censure institutionnelle. Il ne fallait surtout pas évoquer les conditions, non pas de détention, mais d'hospitalisation. De fait, pour moi, le contrat a été biaisé et la confiance thérapeutique indispensable définitivement rompue. Dès lors, comment vivre autrement cet isolement que sous la forme d'une mesure punitive ? La mesure punitive, c'est sur le mode basique. Si tu ne reprends pas de poids, tu es privé de sortie et de lecture. Chantage, infantilisation. Je vous laisse le choix de déterminer cette manière de procéder auprès d'une personne âgée de 41 ans qui, je vous rappelle, exerçait d'importantes responsabilités dans la vie civile, vivait en dehors de son cadre familial, donc n'avait pas besoin d'une rupture avec le milieu familial, qui est souvent le cas pour de jeunes patientes où les relations systémiques au sein d'une famille peuvent être à l'origine d'un trouble du comportement alimentaire. Bref, je me suis retrouvée donc en isolement, alors que je ne portais pas atteinte à mon intégrité personnelle, corporelle, et je n'avais aucun acte violent, ni envers d'autres patients, je ne les rencontrais pas, ni envers le personnel médical. Si je tiens à témoigner, c'est vraiment pour dénoncer de telles pratiques, qui, si elles tendent à s'estomper, demeurent majoritaires dans le traitement d'anorexie mentale en milieu hospitalier en France, à quelques exceptions. Certains établissements, comme Bernard Debré, établissement parisien, et le CHU à Nantes aussi, l'unité TCA, trouble du comportement alimentaire, au CHU de Saint-Étienne. Il me semble indispensable de préciser que l'isolement devrait être envisagé en dernier recours. Or, dans le cadre de mon hospitalisation, c'était la porte même d'entrée d'admission dans l'établissement, établissement de soins. Et surtout, ces mesures devraient être appliquées le plus brièvement possible. Je m'étais engagée, effectivement, en toute connaissance de cause, à 3 semaines en chambre d'isolement. J'ignorais que je ne pourrais pas avoir accès aux livres, j'ignorais qu'il y aurait des barreaux aux fenêtres, j'ignorais que je devais aller aux toilettes en laissant la porte ouverte et qu'une infirmière me regarde à ce moment. Bref, moi j'ai appliqué ma part du contrat et l'institution ne l'a pas fait. Il m'a permis de douter de l'aspect thérapeutique d'une telle hospitalisation. Je vous laisse apprécier par vous-même une visite hebdomadaire d'un psychiatre et aucun autre soin médicaux, sinon le passage quotidien des infirmières pour assister à mon repas et pour prendre mes constantes médicales comme le pouls, le taux de saturation et la température. Bref, les infirmières n'étaient vraiment là que pour la satisfaction des besoins élémentaires. Je me permets de vous soulever avec vous ceci, une question qui me paraît fondamentale. Lorsque les troubles du comportement alimentaire sont avérés être le résultat d'un traumatisme, nous sommes en droit de nous interroger sur la nécessité et le bien fondé d'un protocole de soins qui est perçu et vécu comme un traumatisme supplémentaire, coercitif, humiliant et punitif concernant la période de prolongement à laquelle on ne m'avait à aucun moment parlé. Fort heureusement, il vaut tard que jamais, la Haute Autorité à la Santé publique publia en mars 2017 une recommandation des bonnes pratiques pour encadrer la mise en isolement. Ce qu'elle en retient, et ce que j'en retiens aussi, c'est que l'isolement n'est pas un soin, mais une mesure extrême pour protéger le patient de lui-même ou des tiers. Et que cet isolement doit être limité dans le temps, 12 heures, 24 heures, au plus 72 heures. Ainsi, paradoxalement, l'hôpital psychiatrique, qui est présenté comme un havre de soins, laisse se perpétuer au fond de certains services et établissements des pratiques qui contribuent à des traitements humains dégradants. D'autant plus marqué que lors de la phase de séparation, puisque tel est le terme employé aujourd'hui, c'est un doux euphémisme pour qualifier les mêmes faits, c'est-à-dire un isolement, cette phase devra être propice à créer de nouvelles modalités relationnelles et investir d'autres objets qui permet aux patients d'être non plus en prise avec ses tourments. Cela nécessite évidemment qu'une équipe médicale formée soit présente pour apporter soutien, offrir des activités qui permettent de rompre ces schémas cognitifs figés, générant de profondes souffrances psychiques. Cela n'était pas le cas. Je qualifie donc ce que j'ai vécu, cela non pas comme une hospitalisation, mais comme une punition qui la résultante d'une maltraitance institutionnelle, manque d'effectifs et surtout de personnel formé. Je rappelle que depuis pratiquement 20 ans maintenant, les formations d'infirmiers, il n'existe plus la possibilité de se former en psychiatrie. Auparavant, les infirmiers avaient des études communes, 3 ans, pour obtenir leur diplôme d'État. Aujourd'hui, c'est toujours 3 ans. Et pour les infirmiers qui voulaient se spécialiser en psychiatrie, ils avaient une 4e année. Cette 4e année a été supprimée. Ainsi, j'estime avoir été totalement délaissée durant ce séjour en chambre d'isolement. J'ai vécu la phase de prolongement comme une punition. Quant aux restrictions, elles me furent extrêmement pénibles à vivre. Voici le témoignage très modeste que je tenais à apporter, qui fait écho à la thématique de la première édition de ce festival, l'enfermement et le corps. Puisse ce témoignage participer à une prise de conscience et surtout à une amélioration de la prise en charge de certaines pathologies en établissement psychiatrique. À noter et à souligner que lors de ma sortie, 6 mois après mon admission, j'avais enfin repris 15 kilos. Le directeur de clinique me fit part de sa satisfaction. Je me souviens textuellement de la phrase qu'il m'a dite. Pour nous, le contrat est rempli, bien que l'IMC, l'indice de masse corporelle, n'est pas encore supérieur à 18. Je lui ai répondu textuellement qu'il avait tout faux et que j'étais toujours malade, que je n'étais pas soignée, qu'il ne m'avait pas soignée, mais gavée au sens propre comme au sens figuré. Dans les faits, 2 ans plus tard, je pesais 38 kilos, j'avais une IMC de 11,2, j'avais le scorbut, j'ai eu une hémorragie interne, j'avais la mâchoire fracturée, je me suis retrouvée en fauteuil roulant, bref, j'ai flirté avec la mort. C'est à ce moment-là que j'ai eu une prise de conscience qui m'amena à m'alimenter seule, sans passer par la case d'une nouvelle hospitalisation. Aujourd'hui, j'ai retrouvé un poids d'équilibre qui me permet de ne plus être en danger. Puisse de tels traitements ne plus être appliqués actuellement et d'inscrire les mesures d'isolement dans un cadre de dernier recours après avoir épuisé toutes les autres formes d'alternatives à ce temps de privation de liberté. À l'occasion de ce festival, je suis allée par curiosité visiter le site de la clinique Saint-Vincent de Paul, qui est toujours dirigée par le docteur Carrier, son fils. C'est un établissement qui a été créé en 1849, détenu par la congrégation de sœurs Saint-Vincent de Paul. Et c'est la famille Carrier, une famille bourgeoise qui était médecin, qui a créé cet établissement qui accueillait uniquement des jeunes filles, hein. Je précise, moi j'avais 41 ans, nous étions deux de mon âge, toutes les autres patientes étaient âgées de 17 à 20 ans, et la spécificité de ma situation n'a pas été prise en compte dans le protocole de soins. Et c'est vraiment avec amertume que j'ai lu sur leur page d'accueil que l'isolement est toujours présenté comme le premier espace de liberté pour le patient. Voilà, je vous laisse réfléchir au sens du soin.